9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Vincent Gérousseau.
Bonjour.
Merci d'être venu ce dimanche matin nous présenter Les femmes du lien. C'est le titre de votre ouvrage avec un magnifique sous-titre, La vraie vie des travailleuses essentielles. Il vient de paraître aux éditions Les Arènes et nous allons parler au cours de ce Voix au chapitre ce dimanche matin de votre travail, de ce livre surtout, mais aussi de votre démarche. Je rappelle, Vincent Gérousseau, que vous êtes photographe, journaliste, documentariste, bien sûr, et que vous travaillez dans un sujet de société en général. Hein, c'est votre troisième ouvrage. Les deux précédents abordaient déjà des sujets de société. C'est votre fibre, ça, d'aborder de manière journalistique et photographique aussi. C'est important puisque c'est de ça qu'il est question dans Les femmes du lien. Il y a l'image et il y a la photo et l'entretien.
Bien sûr. Alors, c'est vrai que depuis à peu près 10 ans, effectivement, j'ai vraiment fait le choix de documenter la France populaire au sens large, à la fois de manière politique et sociale. Hein, il y avait eu un premier ouvrage qui s'intitulait L'illusion nationale, qui était une plongée au cœur de villes gérées par le Front National. Puis ensuite, dans le bassin minier à Denain, où j'ai suivi des familles sous le prisme de l'injonction à la mobilité, qui était en fait un documentaire qui racontait en creux, finalement, ce qui a nourri un peu plus tard le mouvement des Gilets jaunes. Puis donc cet ouvrage sur la classe féminine ouvrière, la nouvelle classe ouvrière féminine, avec les femmes du lien.
Alors, les femmes du lien sont celles qui travaillent depuis si longtemps. Elles sont aides à domicile, elles sont assistantes maternelles, elles sont dans tous ces corps médicaux qui sont, ces corps professionnels plutôt, qui sont les métiers de techniciennes d'intervention sociale et familiale, aides-soignantes, éducatrices spécialisées. Voilà, tous ces métiers qui donnent du sens aux gens. Je pense que c'est aussi ça qui est important dans ces métiers-là. C'est des métiers qu'elles ont dans votre ouvrage. Il y a 8 portraits de femmes, 8 métiers différents. Elles sont ou à Saint-Denis ou dans le nord de la France, en milieu rural. C'est aussi le choix d'avoir cette diversité de vues, de personnages. Peut-être dans un premier temps entendre comment vous les avez rencontrées. Vous avez exprimé votre choix professionnel, journalistique et photographique, d'aborder, de rendre témoin, voire de dénoncer, on y reviendra peut-être, ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, sur ces questions des femmes du lien notamment, puisque ça dit beaucoup. Ça dit pas que sur l'humanité de ces femmes, la générosité, parce qu'il est question de ça aussi, de dignité aussi dans leur travail, dans leur rapport aux gens qu'elles soignent, aux familles qu'elles accompagnent, quand elles sont aides à domicile ou aux enfants, etc. Donc tout ça est lié, ce lien il est entre leur travail et eux, mais est-ce qu'il y a du lien entre elles et la société? Toutes ces questions se posent à la fois dans ce titre, Les femmes du lien, c'est les femmes qui donnent et elles sont invisibles, ou en tout cas on voit une espèce d'invisibilité sociale sur elles.
Oui, alors effectivement, moi quand j'ai engagé ce projet, c'était à la fin du précédent. Il se trouve que j'étais très présent sur les ronds-points au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et j'ai croisé nombre de ces femmes avec une surreprésentation finalement de ces métiers, dans leur visibilité du moins, dans ce que l'on peut appeler la France périphérique, ce qui est une définition un peu floue, mais qui en gros concerne les zones périurbaines et les zones rurales. Et en même temps, ces femmes, elles sont aussi surreprésentées numériquement dans les banlieues. Ce sont souvent les mamans, finalement, qui ont une double fonction, que ce soit dans les campagnes ou dans les banlieues, à la fois dans leur profession, où elles assurent des tâches absolument indispensables et essentielles, le maintien à domicile de personnes en situation de dépendance, de situation de grande vulnérabilité, que ce soit des personnes âgées, des personnes handicapées, la prise en charge des enfants, des très jeunes enfants avec la petite enfance, et tout le secteur social. Voilà, donc les éducateurs, les travailleurs sociaux, qui sont des métiers, il faut le dire, où on a à peu près 85% de femmes. Ces pourcentages peuvent monter par exemple à 97% si on parle des auxiliaires de vie. Donc je voulais aussi m'intéresser à cette assignation sociale des femmes à travailler dans ces
métiers-là.
Et c'est vrai qu'il y a un double lien, comme vous le disiez à juste titre, puisque ces femmes, si elles sont présentes et indispensables dans leur emploi, elles tiennent aussi beaucoup de choses dans les sociétés locales. Si on prend le cas des campagnes, il y a véritablement une centralité sociale de ces femmes, parce que souvent, donc la différence avec les villes et les banlieues, c'est que ces femmes sont souvent nées sur ces territoires. Ils ont toujours vécu, ont leur famille au sens large, leurs parents, leurs grands-parents, leurs enfants, leurs petits-enfants, et jouent un rôle pivot parce que le salariat, on va dire, le nouveau prolétariat, d'une certaine manière, dans ces territoires, pour les gens qui restent, fait que les femmes travaillent souvent sur place et les hommes sont amenés à travailler beaucoup plus loin dans les métiers de la route, de la logistique ou du petit BTP. Donc ils sont moins présents. Et ça se traduit par exemple concrètement dans les villages où on n'a plus de café. Et par contre, il y a des salons de coiffure, des salons d'esthéticiennes qui sont extrêmement présents. Donc elles jouent ce rôle social d'aidante, hein, souvent aussi auprès de leur famille, que ce soit dans les banlieues et les campagnes.
Alors dans votre livre, il y a 8 femmes qui sont présentes, Valérie, Marie-Basile, Angélique, Marie-Claude, Marie-Ève, Séverine, Julie, Rachel. Elles ont toutes les 8 un métier différent qui sont ces métiers du lien, comme on a dit. Et elles vont toutes témoigner de leur histoire. Alors, ma question est de savoir comment vous les avez rencontrées et comment on peut se livrer de son vécu. Et après, on rentrera dans une deuxième partie sur la construction du livre qui est tout à fait audacieuse et intéressante. Mais peut-être, comment vous les rencontrez, ces 8 femmes?
Moi, j'ai une méthodologie qui peut se rapprocher un peu de la sociologie dans mon approche. D'une part, parce que quand je commence un travail documentaire, je commence à me documenter tout simplement, à lire énormément, à rencontrer des chercheurs, des intellectuels qui travaillent sur ces questions depuis longtemps. Et d'emblée, moi, j'avais fait le choix de deux territoires bien distincts, parce que ça me semblait intéressant d'avoir à la fois d'un côté des femmes qui travaillent dans ces métiers qui sont souvent nées à l'étranger. C'est la dominante que l'on retrouve évidemment en région parisienne, d'où mon choix plutôt de la Seine-Saint-Denis et Paris, une région rurale post-industrielle dans la Vénois. Donc c'est pas très connu, la Vénois, c'est au sud de Maubeuge, autour de Fourmies. C'est une région extrêmement enclavée, c'est le début de la diagonale du vide, où il y a une surreprésentation de ces métiers. Donc à partir de là, pour rencontrer ces femmes, je n'avais pas d'autre choix. C'est un travail que je commence, je le précise, avant la pandémie, avant la crise sanitaire, hein, puisque je l'entreprends à l'automne 2019. Et d'emblée, pour moi, il était évident de passer par les employeurs de ces femmes. Donc j'ai déterminé, en fonction de ce que je savais, un certain nombre de professions. Voilà, pour moi, il était absolument évident qu'il fallait suivre des auxiliaires de vie sociale. C'est un métier extrêmement important, dans la mesure où il y en a 800 000 en France, avec différents statuts, différents types d'employeurs. Donc je me mets en quête d'employeurs à partir de là, il y a aussi toute une démarche qui consiste, en allant voir les employeurs, à rencontrer un certain nombre de femmes. Il ne s'agissait pas d'en voir une, mais d'en voir plusieurs, de pouvoir exposer mon projet, de pouvoir l'expliquer. Donc il y a un long travail d'explication, de pédagogie aussi sur comment je travaille, puisque c'est un travail qui va s'étaler sur 2 ans.
Donc, et de confiance ensuite pour qu'elle se livre et
les 2 ans
rencontre.
Sont absolument indispensables, effectivement, si on veut nouer une relation de confiance. Parce que non seulement je devais suivre ces femmes, mais pour moi, il était indispensable aussi de pouvoir les suivre dans leur environnement intime, dans leur famille. Avec l'accord de leurs conjoints, de leurs enfants. Parce que ce sont des métiers pas comme les autres. C'est-à-dire que quand on finit sa journée et que l'on rentre chez soi, bah, finalement, la journée n'est pas complètement finie parce qu'on reste avec les problèmes que l'on a traités dans la journée. Je ne sais pas, moi, quand il y a une personne en situation de grande souffrance, ça vous poursuit le soir, vous avez besoin de déverser les choses, vous avez besoin d'en parler à votre conjoint, à vos enfants. Il y a des échanges qui se nouent. Et évidemment, quand on doit le retranscrire dans un livre, ça, je dirais que ça donne aussi beaucoup plus, à mon sens, de relief par rapport à un petit reportage classique en presse quotidienne ou magazine, par exemple.
C'est pour ça qu'il a fallu toute cette durée. Je parlais de confiance, de mettre en confiance ces femmes que vous avez rencontrées. C'est important, ça?
C'est extrêmement important. Je dirais même qu'il faut presque, j'aime pas utiliser l'anglicisme, une sorte de feeling, on va dire, quand on les rencontre. Il y a leur histoire, il y a leur volonté. Moi, je suis aussi extrêmement attentif aussi à ne pas non plus tomber dans l'excès inverse de personnes qui seraient très volontaires, mais pour des raisons égocentriques, parce que ça arrive aussi, il y a quand même un rapport à l'image qui est un peu compliqué aujourd'hui. Mais il y a toujours la construction d'une histoire avec ces femmes, entre elle et moi, toujours.
Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Vincent Jarousseau et nous parlons de « Les femmes du lien ». C'est le titre de son ouvrage avec ce sous-titre « La vraie vie des travailleuses essentielles ». Ce livre vient de paraître aux éditions Les Arènes. On le retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que ce matin, je reçois Vincent Jarousseau. Nous parlons des femmes du lien. La vraie vie des travailleuses essentielles, c'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Les Arènes. Je disais dans cette première partie que vous venez de nous évoquer là sur les rencontres avec ces femmes en milieu rural ou dans la région parisienne, puisque ça se passe à Saint-Denis. Donc tel lieu, ça peut être l'hôpital, ça peut être l'EHPAD, ça peut être une aide à domicile. Vous avez choisi dans votre démarche journalistique et photographique d'accompagner ces femmes. Ça aura duré 2 ans, vous l'avez souligné. Et dans la construction du livre, on voit tout ça. C'est ça qui est intéressant, puisque déjà en introduction de chaque portrait de femme, d'abord il y a un très beau portrait de femme, il y a aussi ça, une posture de la femme, et ça c'est pour le photographe évidemment c'est aussi important de faire de la belle photo dans le portrait de la femme et puis dans son quotidien, on le verra ensuite. Il y a sa fonction et il y a surtout la présentation aussi du lieu où elle travaille, c'est-à-dire que vous expliquez bien journalistiquement, j'allais dire, le propos de l'EHPAD, du nombre de femmes qui travaillent dans les EHPAD aujourd'hui en France. Vous parliez de sociologie tout à l'heure et on voit bien dans l'introduction de chaque portrait que l'information est nécessaire aussi pour comprendre les conditions de travail de ces femmes, là où elles vont avoir leur fonction. Autre audace, j'allais dire, en tout cas particularité dans l'ouvrage, c'est que il y a la première séquence du portrait des femmes. Elle est en BD et elle est en sépia ou en bleu. En tout cas, elle a une couleur particulière. Elle évoque le passé de cette femme, la vie de cette femme avant qu'elle ne soit à l'EHPAD, aide à domicile, etc. C'est important aussi de donner aux lecteurs, lectrices la vie de cette femme que l'on va connaître dans sa vie professionnelle.
Oui, effectivement, moi, quand je rencontre chacune de ces femmes au début, il est très important pour moi, assez rapidement, de connaître leur histoire, d'une certaine manière, d'où elles viennent. C'est vrai que c'est en réalisant ce travail, moi, je n'avais pas nécessairement prévu au départ, quand j'ai écrit le synopsis de ce projet, puisqu'il y a toujours un synopsis de base, je n'avais pas forcément envisagé au départ d'avoir des séquences de BD pour chaque protagoniste. Et c'est vraiment en les interviewant toutes que ça m'est apparu comme une évidence. Dans la mesure où ce passé, pour chacune d'entre elles, raconte énormément, d'une part...
De ce qu'elles vont devenir.
De ce qu'elles vont devenir plus tard. Je parlais tout à l'heure d'assignation du genre dans ces professions. Quasiment toutes, dans leur enfance, ont connu des assignations à effectuer des tâches domestiques à la maison, des tâches de soutien, d'aide, de toilette pour des grands-parents, pour les anciens du village... Que l'on soit né à Yaoundé.
Voire même que leurs parents ont fait ce travail et les ont vus faire ce travail. Il y a une constante comme ça, effectivement, cette ressemblance.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette assignation, que l'on soit né en Afrique ou dans le fin fond de la campagne du nord de la France, elle est la même, en réalité. Ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça dépasse quelque part la question des origines. Finalement, l'assignation de genre est d'une certaine manière plus forte que tout le reste. Et puis après, il y a aussi, je dirais, aussi des parcours de famille populaire, c'est-à-dire que nombre de ces femmes auraient eu la possibilité de faire des études, mais ont été dans l'impossibilité de pouvoir se les faire payer par leurs parents pour des questions de distance, de coûts, tout simplement. Donc on reste au pays. Voilà. Et puis il y a aussi ces parcours de migration qui sont formidables, voire pour certaines, de carrières autres. Moi, je pense à Marie Basile, qui est auxiliaire de vie sociale à Paris, qui, quand je l'ai rencontrée, on était en plein premier confinement. Elle habitait à Stains. À l'époque, je faisais le trajet avec elle dans les transports en commun. Et voilà. Et Marie Basile, la première fois que je la rencontre, elle me raconte que dans sa vie, avant de venir en France, au Cameroun, elle était fonctionnaire de police, inspectrice de police à l'aéroport de Yaoundé. Donc voilà, c'est des choses finalement qui sont assez peu connues. Elle a un parcours qui mérite beaucoup le respect et qui force, je dirais, vraiment le respect. Quoi.
Et ces femmes, est-ce que en lisant toutes ces histoires, il y en a 8, elles sont à la fois différentes et ressemblantes justement dans leur parcours de vie, bien évidemment, parce que Marie-Basile qui vient de Yaoundé n'est pas une femme qui arrive à Saint-Denis, etc. Mais il y a cette constante qui est celle que vous avez soulignée, qui était qu'elles étaient souvent assignées à être dans les tâches domestiques à la maison. Mais elles ont aussi quelque part choisi entre guillemets ce métier parce que ça leur plaisait quand même. Il y a aussi cette démarche d'aider l'autre, ça revient souvent ça. Moi, elles peuvent pas se passer d'aider les autres.
Ça va même au-delà. Au-delà, il y a même une fonction pour certaines, je dirais presque réparatrice.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très présent dans ce livre, c'est le don de soi.
Oui.
Voilà, ça, je veux dire, on ça donne respire. Tout. Hein. Ça respire et on a besoin de donner parce que finalement, on a besoin de donner ce qu'on n'a pas forcément reçu dans son enfance. Et c'était aussi là qu'il y avait une pertinence à ce que ces femmes s'autobiographient d'une certaine manière. Dans ces parties de bande dessinée d'ailleurs par Thierry Chavant, hein, faut quand même le préciser, parce que justement ce passé permet de revenir et de comprendre le présent. Effectivement, si je prends par exemple le cas de Marie-Ève qui est assistante familiale, donc j'anticipe un petit peu sur la suite.
Mais, oui, allez-y.
Mais c'est vrai que elle est assistante familiale, donc famille d'accueil pour des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Oui. Elle a elle-même été placée jusqu'à ses 18 ans. Et elle a été prise en charge techniquement de manière correcte, comme elle le dit. Hein. Elle n'a manqué de rien, sauf d'amour, quoi, d'une certaine manière. Et cet amour, c'est ce qu'elle a essayé
elle
de donner
a tenté
toute sa vie.
Elle a tenté
de donner toute sa vie aux jeunes, aux enfants qu'elle a accueillis chez elle.
Et on retrouve dans chacune d'elles, selon là où elles travaillent, où elles exercent ce métier du lien, d'être entière quoi quand elles sont qui est à l'hôpital et non dans un centre quasiment de fin de vie enfin
c'est un centre de soins de suite
centre de soins. Là faut aller jusqu'au bout d'être entière et puis de donner à la fois et le métier et puis la générosité à accompagner aussi je trouve qu'il y a quelque chose qui est qu'on n'évoque jamais dans ces métiers du lien, c'est l'humanité et c'est tout ce qu'elle porte comme...
Disons que si on regarde où et quand sont présentes ces femmes, alors pas toutes, hein, mais que ce soit pour la petite enfance ou la fin de vie, elles accomplissent des tâches absolument essentielles qui consistent à accompagner finalement la construction des êtres humains et leur disparition.
Et la fin, oui.
Et la fin. Et c'est une tâche éminemment noble. Et ça, toutes, sans exception, sont extrêmement fières de ce qu'elles font.
Oui.
Dans ces métiers, il n'y a pas de problème de sens. On parle beaucoup du travail en ce moment dans notre société, de la perte de sens. Il y a eu, suite à la crise sanitaire, beaucoup ce qu'on a appelé la grande démission chez un certain nombre de métiers pour des personnes qui avaient fait des études supérieures, notamment. Je pense à toute la cohorte des consultants qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Dans ces métiers, on sait pourquoi on est là. Et heureusement, parce que malheureusement, ce sont des métiers qui sont très mal reconnus et donc très peu, très mal payés aussi.
Voilà, j'allais parler de précarité justement aussi. On est dans parce que c'est évoqué aussi dans votre propos. Et puis elles le disent aussi combien elles gagnent quand on garde des enfants à domicile, on attend par enfant, multiplié par 3 mais pas 4 et pourtant 3 ça suffit pas. Donc elles expliquent bien aussi leur précarité.
On va parler clairement. On a assisté ces 50 dernières années à la création d'une certaine manière de ces métiers. Hein, c'est-à-dire que par le passé, c'était des tâches qui étaient assurées dans le cœur de la famille, on va dire, par les femmes évidemment. Et on est passé de la domesticité à une forme de professionnalisation, mais qui n'est pas complète en réalité de ces fonctions. Sauf que cette professionnalisation, elle n'a pas été, à mon sens, totalement accomplie. Dans la mesure où la plupart de ces femmes, surtout sur les métiers du domicile, hein, puisqu'on parle des lieux de travail, très souvent, pour nombre de ces protagonistes, ce sont des femmes qui travaillent chez elles ou chez les autres. Elles n'ont pas des statuts, je dirais, ce sont des tâcheronnes. Elles sont payées à la tâche qu'elles effectuent. Ce qui fait que, si on prend par exemple le cas des aides à domicile, les aides à domicile, sont payés partiellement pour des emplois à temps plein. Puisqu'il y a un morcellement des journées avec des heures creuses. Une aide à domicile, il faut savoir, en France, met 15 ans pour prétendre à un SMIC mensuel. C'est un vrai scandale. Aujourd'hui, les services d'aide à domicile en France sont dans une situation absolument catastrophique. Elles rencontrent des problèmes de recrutement depuis des années dans ce secteur, c'est pas nouveau. Mais là, aujourd'hui, on a passé un stade supérieur, à savoir que ce sont des services où on refuse des prises en charge de personnes en situation de dépendance, faute de bras, parce que ce sont des métiers qui sont très mal payés.
Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Vincent Jarousseau, Les femmes du lien, la vraie vie des travailleuses essentielles, c'est le titre de son ouvrage, il vient de paraître aux éditions Les Arènes, on le retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
À Voix au chapitre ce dimanche matin, Vincent Jarousseau, notre invité. Les femmes du lien, la vraie vie des travailleuses essentielles vient de paraître aux éditions Les Arènes. C'est le titre de son ouvrage et nous évoquons ce travail essentiel des femmes, effectivement, qui sont des femmes qui travaillent dans des EHPAD, dans des hôpitaux, qui sont aides à domicile. Et je retiens une très belle chose que dit l'une d'elles, qui travaille dans une EHPAD, quand elle explique la difficulté de travailler dans l'EHPAD, dans les conditions de travail. On a parlé de salaire, de précarité dans le salaire il y a un instant, mais dans le travail aussi c'est difficile. Et une femme dit, il faut aller vite, parce qu'on lui demande d'aller vite, et elle dit, il faut aller vite, mais comment être en douceur avec ces personnes âgées dans les EHPAD quand il faut aller vite? Je trouve qu'il y a là un décalage avec ce qu'elle donne, comme vous le rappeliez tout à l'heure, et les conditions de travail. Je crois que ça, c'est aussi à souligner. Elles sont, voilà, il y a une invisibilité d'elles, peu de reconnaissance d'elles, au pluriel, mais elles sont près de 3 millions, je crois, selon vos chiffres, mais en même temps, les conditions de travail sont terribles.
Oui, effectivement, les conditions de travail sont souvent extrêmement frustrantes et dans certains cas, certaines professionnelles peuvent être dans des situations de maltraitance. Hein, c'est le cas de l'hôpital, et de manière involontaire, hein, c'est pas malveillant. Effectivement, là, ce sont des temps, ce sont des métiers où c'est la logique comptable, hein, qui prévaut parce que tout simplement les moyens qui sont dévolus à ces secteurs sont trop faibles, sans compter qu'il y a un morcellement des responsabilités entre les employeurs qui sont souvent de statut associatif. On a délégué aussi au département énormément de responsabilités, mais sans les transferts financiers qui vont avec. Donc ce morcellement ne permet pas non plus de porter des revendications collectives. Et puis ce sont des métiers où on est souvent très seul. Les métiers du domicile, on travaille seul, donc on peut plus difficilement se mobiliser. Et effectivement, c'est la logique comptable, c'est la tarification à l'acte, d'une certaine manière transposée aux actes du soin et de la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité qui prévaut. Et moi, j'ai été très très marqué quand j'ai suivi les auxiliaires de vie. Certes, les auxiliaires de vie assurent des tâches de toilette, d'habillement, de préparation de repas. Mais qu'est-ce qu'attendent les personnes âgées? Elles attendent une présence. Souvent, les enfants sont loin, ne sont pas là. Elles attendent
souvent, c'est la seule présence.
Elles attendent une présence, une parole.
Un sourire.
Et un sourire. Ça passe beaucoup. D'ailleurs, moi, j'ai essayé de le retranscrire. Alors, c'est un travail photographique. On n'en a pas beaucoup parlé.
On va en parler.
Voilà, la photo permet de traduire aussi. Il y a une double lecture, hein, dans ce livre, puisque il y a la parole de ces femmes qui est retranscrite dans les bulles.
Et puis, il y a eux qui, enfin, les personnes qu'elles accompagnent, qui parlent aussi,
qui
racontent. Elles ne sont pas seules à parler, qui racontent aussi l'importance qu'elles sont par rapport à leur accompagnement, etc. Et effectivement, la photo est importante. J'allais prendre le temps d'en parler. Vous le soulignez parce que, d'abord, c'est votre métier aussi. Et puis, c'était important de prendre en photo ces femmes dans leur espace privé et dans l'espace de travail et avec les gens qui sont, qu'elles accompagnent, que ce soit à l'hôpital, à l'EHPAD aussi. Ça a été, comment ça s'est imposer cette photo à l'hôpital avec les patients, à l'EHPAD avec les personnes âgées, dans les structures où ils sont pris en photo.
Alors, bien évidemment, moi je suis extrêmement respectueux des personnes. De toute façon, on a des contraintes de droit qui font qu'on est.
Fallait pouvoir rentrer à l'hôpital aussi.
À l'EHPAD.
À l'EHPAD.
Sachant que l'hôpital et l'EHPAD, j'y rentre, je commence mon travail, parce que si c'est un travail que j'ai commencé avant la pandémie, pour certaines protagonistes, j'ai commencé à suivre d'autres protagonistes après la première vague de Covid. Et par exemple, l'EHPAD et l'hôpital, je commence mon travail en mai-juin 2020. Donc il y a quand même... le virus est là, et d'ailleurs on a une séquence avec Rachel à l'EHPAD où il y a un cluster, elle est tenue de cosmonaute, enfin c'est compliqué.
Compliqué pour les femmes qui vont travailler.
J'avais des accords de droit à l'image pour certaines personnes, donc dans lesquelles je pouvais aller, mais bon, y compris j'ai d'autres images que j'ai pas forcément sélectionnées dans le livre de toilettes, choses très intimes. On a essayé d'être quand même délicat, sans édulcorer non plus le réel, parce que c'est très important. Alors après, la mise en image de ce livre, elle est particulière, hein, c'est comme mes précédents ouvrages, ce sont des romans, enfin ça peut rappeler...
Les romans photos.
Ça peut rappeler les romans photos, mais on est plus pour moi dans un docu-photo dialogué, c'est-à-dire que c'est vraiment du roman photo documentaire, hein, puisqu'il n'y a aucune mise en scène, c'est vraiment du photo-reportage au sens strict du terme. C'est des séquences en fait avec des différentes cases. On est en radio, hein, donc j'explique un peu à quoi ça ressemble. Mais pour le lecteur, il y a quelque chose d'extrêmement immersif. On en oublie très rapidement finalement le style et formel de ce livre. Et l'intérêt, c'est cette résonance qu'il y a permanente entre la restitution de la parole de ces femmes et leur représentation. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse avec ce genre, c'est d'amener le lecteur à sa façon à faire aussi un peu une expérience immersive dans ces univers qui sont parfois inconnus.
Ça donne à comprendre, en tout cas, ça donne à voir et puis à comprendre ce que vivent ces femmes qui travaillent, ces femmes du lien, parce que j'aime bien reprendre aussi l'intitulé, parce qu'on peut, vous avez évoqué tout à l'heure la disparité dans la journée, par exemple, il y a des femmes qui partent à 6h du matin, qui vont travailler jusqu'à 13h, après rentrent chez elles, puis après faut revenir à 4h, ça a été ça, des aides... Chacune qui peut nous entendre connaissent des aides à domicile, elles ont des conditions de travail infernales, quoi. Ça, on sort de la maison à 6 heures du matin et on rentre à 21h.
Certaines ne peuvent pas rentrer chez elles, ouais. Certaines passent les heures de l'après-midi dans leur voiture, celles qui sont sur Paris, par exemple à Paris, il y a un problème, c'est que dans ces professions, mais c'est vrai aussi pour les femmes de ménage qui travaillent souvent tôt le matin et tard le soir, moi j'en connais, hein, qui vivent à Creil ou à Mantes-la-Jolie, qui n'ont pas la possibilité de revenir chez elles, elles n'ont pas de lieu où aller dans la journée. Et là, je crois qu'il y a quand même des expériences. J'avais fait un reportage dans une structure pour femmes en situation de vulnérabilité dans le 18e, et il y avait un espace d'accueil où les femmes venaient se reposer. Hein. Et c'était des femmes qui travaillaient, parce qu'elles ne vont pas au café. Parce que ça coûte cher, parce que... Voilà.
Parce que ce n'est pas leur lieu d'habitude.
Lieu approprié. Et on aurait besoin, notamment dans les grandes villes, dans les banlieues, de lieux entre guillemets refuges, quoi, comme ça.
Ça serait bien que du côté des institutions, des ministères, ce livre soit mis sous le nez de ceux qui sont aux commandes, justement, de ces manques de moyens pour que ces femmes aient de meilleures conditions de travail, que ces femmes aient de meilleurs conforts de travail, pas que des conditions de salaire, mais de confort de travail, qu'elles soient plus nombreuses dans un service, parce que on manque toujours d'un l'hôpital aujourd'hui, c'est une catastrophe, chacun le sait. Donc
oui, il y a un peu tout ça. Ce qu'il faut bien voir quand même sur ce livre, hein, c'est que c'est l'hôpital est presque en minorité, hein, c'est pas le sujet.
Oui, enfin l'hôpital ou les pas le lieu de où travaillent ces femmes.
Mais pour le coup, les métiers du domicile sont encore plus invisibilisés. On l'a vu au moment du Ségur de la santé. Hein. Je veux dire, quand il y a eu le Ségur de la santé, il y a quand même eu des mesures, même si elles étaient timides, pour l'hôpital. On a complètement oublié le secteur du domicile. Or aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, avec les familles en difficulté aussi, hein, il y a une technicienne d'intervention sociale et familiale dans ce livre, c'est un métier que moi que je ne connaissais pas quand j'ai commencé ce travail, qui intervient dans des familles en situation de grande fragilité. Quand je dis qu'elle intervient, c'est qu'elle fait avec les familles, elle n'est pas dans l'injonction, elle n'est pas éducatrice, c'est-à-dire qu'elle va accomplir des tâches domestiques avec les personnes, enfin, les membres de la famille, pour mettre en place des organisations et faire aussi un travail de prévention. Alors, elle est l'œil. Mais ces professions sont complètement invisibilisées. Alors, je ne sais pas si un livre, ça peut changer les choses. En tout cas, ça peut y contribuer. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le livre est sorti le 22 septembre. Le lendemain, je recevais un appel du cabinet de Jean-Michel Combes, donc, qui est le nouveau ministre des Solidarités et du Handicap, qui m'a reçu avec plusieurs.
Donc ça sert à quelque chose un peu.
Voilà, mais
lui, on verra après.
Mais lui, c'est pas lui qui tient les cordons de la bourse non plus. Il a besoin d'une certaine manière d'avoir des points d'appui et faire un livre comme celui-ci, ça permet, je dirais, c'est un moyen comme un autre, comme le film de François Ruffin, Debout les femmes.
Debout les femmes, bien sûr.
C'est une manière d'appuyer et de voilà, il faut absolument qu'on avance parce que on va avoir de plus en plus de besoins dans les années et décennies qui viennent dans tous ces domaines. La société du Caire, une société du Caire. C'est un projet plus vaste qui doit aussi, à mon sens, accompagner la transition, le bouleversement climatique aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Yes. On va avoir besoin de soins, on va avoir besoin de solidarité dans les années qui viennent.
En tout cas, moi, en refermant ce livre-là, après avoir lu avec beaucoup d'intérêt, les portraits de ces huit femmes, je me suis interrogé sur ce qu'elles sont devenues après avoir lu les histoires. Mais vous avez cherché à savoir ce qu'elles sont devenues, puisque en dernière page, vous nous donnez la suite un petit peu de, parce que il y a, je pense à cette éducatrice spécialisée qui tient absolument à faire un restaurant, parce que c'est aussi de l'insertion, parce que elles sont toutes dynamiques, donc dans ce qu'elles expriment à leur manière. Et puis voilà, donc là, vous l'avez sans doute rencontré à nouveau, et puis elle est toujours en attente, mais il y en a d'autres qui ont avancé dans leur projet de vie, leur vie professionnelle. Donc voilà, peut-être un mot pour finir sur un peu ce que vous pourriez continuer de mener, ou avec elle, ou autrement sur cette question-là, qui visiblement sont des questions qui vous qui sont vos centres d'intérêt, des questions sociologiques de ce que nous dit aujourd'hui la société française.
Quand on passe beaucoup de temps comme ça avec des personnes sur un projet documentaire, c'est difficile de rompre. J'ai cette expérience de mes précédents livres, mais là, je dirais que c'est peut-être encore plus difficile puisque vraiment, je me suis beaucoup attaché. Enfin, je pense que le lecteur s'attache à ces personnes, s'identifie indirectement, parce qu'on a tous dans son entourage une femme. Il y a une femme sur quatre qui travaille dans ces métiers en France. C'est énorme. Et je sais que pour la suite, je vais avoir du mal à couper le cordon. Je pense que je ne le couperai pas complètement.
Vous verrez les enfants grandir de certains.
Oui, oui, et elles font partie prenante de la sortie de ce livre, de toute façon.
Merci infiniment pour ces mots de la fin. Merci pour ce livre, Vincent Jarousseau, Les femmes du lien, la vraie vie des travailleuses essentielles. Ça vient de paraître aux éditions Les Arènes et il est à mettre entre toutes les mains. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.